Encore une fois, bonjour à toutes et à tous, et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes en train d'étudier depuis plusieurs sabbats le royaume de Dieu, et nous avons considéré, ou du moins nous étions dans la section qui s'intitule, nous sommes dans la section qui s'intitule l'entrée dans le royaume de Dieu. Et dans cette section, nous avons considéré la nouvelle naissance, premièrement, l'obéissance qui comme étant la condition de l'alliance, et aussi l'obéissance comme étant le devoir immuable. Et en ce jour, nous allons considérer une partie qui s'imbrique dans cette section qui s'intitule l'entrée dans le royaume de Dieu. Et cette partie s'intitule faire la volonté de Dieu. Mais avant d'ouvrir nos Bibles pour considérer l'étude d'aujourd'hui, je vous inviterai avec moi à vous prosterner pour demander à notre Dieu de nous conduire alors que nous allons sonder les Écritures. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être rassemblés en ce matin. Nous sommes peu nombreux et Seigneur, nous savons que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es avec eux. Père Céleste, nous te prions et te demandons le pardon de nos fautes. Tu connais nos imperfections, tu connais nos lacunes, Seigneur, que tu puisses nous révéler, Seigneur, toutes ces choses que nous ne connaissons pas, et que nous puissions les délaisser, Seigneur, dans le nom et avec la puissance de Jésus, et que par Jésus, Seigneur, nous puissions nous rapprocher plus près de toi chaque jour, notamment ce jour de sabbat que tu nous donnes. Tendre Père, nous voudrions que tu sois avec nous. Que tu sois présent avec nous par ton esprit et que nous puissions être éclairés par toi de manière à comprendre, Seigneur, ce que nous allons étudier en ce matin, les textes que nous allons considérer et que nous puissions, Seigneur, apprendre ce qu'est faire ta volonté. Merci pour ce que tu as fait pour nous durant cette semaine. Merci pour ce que tu vas faire pour nous et ce que tu vas commencer à faire pour nous à présent. Alors que nous allons commencer, alors que nous allons terminer cette semaine et que tu vas nous parler et nous fortifier pour la semaine à venir. Nous te remercions dans le nom de Jésus, tendre Père, et pour ta gloire. Amen. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Matthieu. Au chapitre 7, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, et le verset qui va nous intéresser en ce matin est le verset 21. Et considérons ensemble le verset 21 du chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus déclare ici que ce n'est pas l'invocation de son nom qui fera de la personne de cette personne-là qui invoque son nom un membre, un citoyen du ciel, du royaume céleste. Mais celui qui fait la volonté du Père. Et remarquez le contexte dans lequel Jésus prononce cette parole. Le contexte, on pourrait le faire commencer à partir du verset 13. Considérons le verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Vous tous, vous qui faites métier d'iniquité. Quiconque, donc, entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé, et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Voici le contexte dans lequel Jésus a prononcé les paroles qui nous intéressent au verset 21. Mais comme vous l'avez compris, le verset 21 ne peut pas être pris hors de son contexte. C'est pour cela que nous avons considéré tout le contexte de manière à voir dans quelle configuration Jésus donna cet enseignement. Et mes amis, nous avons déjà vu durant les deux dernières présentations que la volonté de Dieu est révélée dans sa loi, à savoir les 10 commandements. OK? Donc, quand Jésus dit que ceux qui rentreront seront ceux qui auront fait la volonté de Dieu, il est bien question de ceux qui auront observé la loi de Dieu, les 10 commandements. Car voyez-vous, la loi de Dieu, encore une fois, je me répète, les 10 commandements, j'insiste, pour préciser de quelle loi nous parlons, il s'agit du fondement de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Car voyez-vous, dans le lieu très saint, du sanctuaire terrestre, il y avait l'arche. Et voyez-vous, entre les deux chérubins, c'était l'endroit où Dieu manifestait sa présence pour parler à Moïse. Et qu'est-ce qu'il y avait sous cet endroit-là? Il y avait le propitiatoire, et en dessous, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Il y avait notamment les 10 commandements. Donc, si l'endroit où se réunissait, où Dieu manifestait sa présence entre les deux chérubins, nous pouvons considérer que c'est là que Dieu résidait, entre guillemets, où il manifestait sa présence. Donc, nous pouvons comparer cela à un trône. Et en dessous de son trône, qu'est-ce qu'il y avait? Les 10 commandements. Donc, nous comprenons que les 10 commandements sont le fondement même de son trône. OK? Lorsque Dieu se réunissait pour parler à Moïse concernant son peuple, en dessous de lui, il y avait sa loi. Il y avait sa loi, mes amis. Et il en est de même dans le ciel, puisque nous savons que le sanctuaire terrestre fut une réplique du sanctuaire céleste. Et nous comprenons également que lorsque Jésus est en train de donner ses enseignements, il commence par mettre en garde contre les faux docteurs. Il commence par mettre en garde, regardez, du verset 13 jusqu'au verset, même au verset 20. Ce que Jésus est en train de cibler là sont les faux docteurs, les faux prophètes. Et voyez-vous, cela a deux portées. Cela a deux portées. Il y a une portée prophétique et il y a une portée, on va dire, individuelle. La portée prophétique ici, c'est que Jésus donne la signification de faux prophète déjà. Il dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, autrement dit, lorsque dans l'Apocalypse, on va considérer le faux prophète et que nous allons chercher à savoir quelle est la signification du faux prophète, eh bien, c'est quelque chose, pour ne pas dire quelqu'un, c'est quelque chose, ce que j'introduis d'abord et après, nous allons voir la partie prophétique et la partie personnelle, la partie individuelle. C'est quelque chose qui a l'apparence du christianisme, puisque Christ est l'agneau de Dieu. Et là, justement, il vient à vous en vêtements de brebis. Donc, il a l'apparence du christianisme, mais au-dedans, ça vient pour manger. Ça vient pour arracher ce qu'il y a de chrétien chez les gens, en fait. Donc, voilà quelle est la signification première des paroles de Jésus, en fait. Et donc, nous savons que dans la prophétie biblique, le faux prophète correspond au protestantisme apostat. Et du point de vue personnel, le faux prophète, c'est la même chose que le faux prophète dans la prophétie, sauf que là, cela s'applique d'un point de vue personnel, individuel, à une personne. Et cette personne-là, justement, peut être prédicateur, pasteur. Mais au-dedans, en fait, cette personne-là a des principes qui l'animent. Et le ministère de cette personne-là, les intentions, les motivations de cette personne-là vont tendre à, si je puis dire, déchristianiser ceux pour qui il œuvre. Et là-dessus, Jésus nous demande de considérer les œuvres de ces faux prophètes. Il nous demande de considérer les œuvres. Car ce n'est pas tout homme qui dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et mes amis, dans la prophétie, remarquez ce que le faux prophète fait. Qu'est-ce que fait le faux prophète? Ou si vous voulez, l'image. L'image de la bête. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'on sait ce qui est fait? Il enjoint à la terre entière de prendre la marque de la bête. Mais mes amis, lorsque vous prenez la marque de la bête, en fait, vous prenez la marque de la bête et de son image. La marque de la bête et de son image. Parce que la bête enjoint, a prescrit, a changé le jour du repos la déplacer du sabbat au dimanche. Mais qui est-ce qui va préconiser l'observation de la marque de la bête? Exactement. C'est son image. C'est son image. C'est pour ça qu'il s'agit de la marque de la bête et de son image. La marque, elle appartient à la bête, mais aussi à son image, en fait. Puisqu'on aura suivi l'image de la bête dans sa campagne pour promouvoir l'œuvre de la bête. Et donc, voyez-vous ici, les paroles sont une chose, mais les actions sont une autre. La sincérité ne doit pas être en parole, mais en fait, voyez-vous. Beaucoup de personnes se réclament du christianisme, mais nous devons voir cela dans les faits, mes amis. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. Voici le sens premier. Voici, je me base sur le texte biblique pour dire ça. Je n'invente rien du tout, mes amis. Je n'invente rien du tout. Et c'est aussi pour cela que nous avons vu dans des prédications antérieures que lorsque nous avons connu Jésus-Christ en dehors de l'observation des commandements de Dieu, eh bien, le baptême est quelque chose par lequel il nous faut passer. Parce que, justement, nous n'avons pas fait la volonté de Dieu et que, en conséquence, nous avons servi Dieu dans une contrefaçon et pas dans l'obéissance à sa loi. Et je voudrais vous terminer cette étude du contexte en considérant aussi ce que Jésus dit au verset 23. Jésus dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Lorsque l'on n'observe pas la loi de Dieu, Jésus dit qu'il ne nous a jamais. Il nous dira, si on reste dans cet état-là, qu'il ne nous aura jamais connus. Et il nous dira, « Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Faire métier d'iniquité, pratiquer l'iniquité, mes amis, c'est lorsque l'on n'observe pas la loi de Dieu. Il ne s'agit pas là d'un chrétien qui connaît les commandements de Dieu et qui milite pour y marcher. Ok? Cette personne-là ne peut pas être rangée dans la catégorie des faux prophètes. Mais là, nous parlons de quelqu'un qui connaît le Seigneur, entre guillemets, puisqu'il connaît son nom et il l'invoque. Mais dans sa vie, il y a des actions qui sont menées. Et cette personne-là, ou ces personnes-là, pratiquent l'iniquité. Et Jésus ne connaît pas. Jésus ne connaît pas ces personnes-là, car Jésus observait la loi de son Père. Donc Jésus ne peut pas connaître ces personnes-là, parce que Jésus n'a aucun partage avec ces personnes-là. Et la maison qui est bâtie sur le roc, là aussi on peut dire des choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la différence entre une maison bâtie sur le roc et une maison bâtie sur le sable? Il y en a une qui est en hauteur et l'autre qui est plus bas en altitude. Et lorsque vous avez une maison bâtie sous le roc, quelle est la différence que cette maison-là présente avec celle qui est bâtie sous le sable? Est-ce qu'on sait? Le matériel est différent, d'accord. Mais encore, La maison qui est bâtie sur le roc demande plus d'efforts. Elle demande plus d'efforts pour être construite. Parce que vous devez monter sur le rocher. Donc la construction en elle-même est plus compliquée. Il y a plus d'efforts à fournir. Tandis que lorsque c'est sur le sable, là, vous n'avez pas d'efforts à faire. Vous amenez vos matériaux sur le sable et vous n'avez pas à les faire monter sur la petite colline, là, sur le rocher, pour construire votre maison. Mais, quelle est aussi la différence? Quelle différence qu'il y a encore? C'est que lorsque les intempéries surviennent, c'est là que l'on voit la solidité de la maison. Merci, la solidité de la maison. Et donc, celui qui aura bâti sa maison rapidement, sans trop faire d'efforts, sur le sable, eh bien, son œuvre sera éprouvée et, si je puis dire ainsi, trouvée trop légère. Mais celui qui aura fait l'effort de bâtir sa maison sur le roc, sur le rocher. Il aura fait plus d'efforts pour amener ses matériaux sur le rocher. Lorsque les intempéries arrivent, est-ce que sa maison s'effondre, mes amis? Non, mes amis. Sa maison ne s'effondre pas. Et donc, celui qui fait les efforts en bâtissant sa maison sous le rocher, Jésus nous dit que c'est celui qui entend sa parole et qui la met en pratique. C'est celui qui suit le Christ. Suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose de tout repos. Ce n'est pas quelque chose qui nous permettra de nous complaire dans notre oisiveté. Il n'y a pas d'oisiveté dans l'imitation du modèle que nous a proposé Jésus. Il y a des efforts à faire. Il faut monter sous le rocher, mes amis. On ne peut pas comparer nos vies à celles et ceux qui bâtissent leur vie sur le sable, sans Jésus. Mais lorsque les intempéries viendront sur nous, nous serons en sécurité. Car nous aurons bâti un caractère qui est celui du Christ. Et donc, notre vie sera en sécurité. Notre œuvre sera bâtie sous le Christ, sous ses paroles. Et lorsqu'on est en Christ, mes amis, nous sommes inébranlables. Voilà le contexte. Rapidement, j'ai brossé rapidement le contexte là. Du verset 21, le verset qui nous intéresse. Maintenant, je souhaiterais voir avec vous quelques versets où Jésus nous parle de la volonté de son Père, ou la volonté de celui qui l'a envoyé, pour que nous puissions savoir également ce que signifie, quelles sont les autres portées qu'il y a à faire la volonté de Dieu. Considérons ensemble Jean chapitre 6, le verset 38 à 40. Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Et Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ici, Jésus nous parle de la volonté du Père. Au verset 38, il nous fait comprendre qu'il s'est humilié dans le fait qu'il soit descendu du ciel. Et pourquoi s'est-il humilié, mes amis? Était-ce pour faire sa volonté? Non, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, Jésus s'est humilié pour obéir. C'est une chose qui n'est pas répandue sur terre. Vous serez d'accord avec moi. Et au verset 39, il continue. Et il va encore dire ce qu'est la volonté de son Père, qu'il a envoyé. C'est de ne perdre aucun de ceux qui lui fut confié, mais de les ressusciter au dernier jour. Je vous pose une question. Pourquoi Jésus pourra ressusciter les enfants que le Père lui a confiés? La réponse est que il a été obéissant. Il s'est d'abord humilié pour obéir, pour faire la volonté de son Père. Et comme il a été obéissant, le Père l'a ressuscité et lui a donné le pouvoir de ressusciter. Et c'est pour ça qu'il va ressusciter tous ceux que le Père lui aura confiés, mes amis. Tous ceux qui l'auront imité dans son humiliation et dans son obéissance. Verset 40, il va rajouter encore, il va donner une troisième portée à la volonté de celui qui l'a envoyé, à la volonté de son Père. C'est que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, mes amis, c'est aussi que les hommes regardent à celui qui rendit une obéissance parfaite, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et pourquoi cela? C'est pour hériter de la vie éternelle et en prendre possession lors de la résurrection. Donc, voici ce que signifie faire la volonté du Père. Jésus nous en parle ici, dans ces trois versets-là. Et notre texte de base est Matthieu 7, verset 21, où il dit que ce n'est pas tous ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, entrer dans le royaume des cieux, mes amis, si je dois remettre Jean 6, verset 38 à 40 dans le contexte, pour moi et pour nous qui sommes ici, pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons, comme Jésus, nous humilier et l'imiter, c'est-à-dire obéir. Et après, qu'est-ce que cela comporte? Cela nous demande également de regarder à celui qui a rendu une obéissance parfaite, c'est-à-dire le Fils de Dieu, mes amis. Et à ce moment-là, nous aurons la vie éternelle. Jésus nous donnera la vie éternelle, car nous l'aurons suivi dans son obéissance. Et cela est la volonté de Dieu, mes amis. Voilà quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve également dans Matthieu, chapitre 18, versets 10 à 14. Matthieu, chapitre 18, versets 10 à 14. Matthieu, chapitre 18, versets 10 à 14. Où Jésus déclare, « Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis, que dans les cieux, leur ange voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble-t-il? Si un homme a 100 brebis et qu'il y en ait une égarée, ne laisse-t-il pas les 99 pour s'en aller chercher dans les montagnes celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous dis en vérité, qu'il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont point égarés. Ainsi, la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ses petits se perde. Jésus était en train de parler après que ses disciples lui aient demandé qui était le plus grand dans le royaume. Il l'a fait venir un petit enfant au milieu d'eux en leur disant que vous devez être semblable à ce petit enfant. Et après, Jésus reprend, donc ça c'était la raison pour laquelle il est question de petit. Jésus, au verset 10, à partir du verset 10, ce que nous avons lu, il nous parle de ne pas mépriser ces petits. Ces petits de manière littérale, mais aussi ceux qui sont petits comme eux, ceux qui suivent l'enseignement de Jésus et qui, de ce fait, se rendent petits comme eux. Et pourquoi cela? Parce que lorsque nous avons du mépris pour ces petits, pour ceux qui se comportent comme ces petits, eh bien, nous pouvons causer la perte. Nous pouvons causer leur perte, mes amis. Et Jésus va nous montrer la gravité de cela. La gravité de cela, c'est parce que Jésus va se prendre un exemple et il va donner une parabole. La parabole d'un homme qui avait 100 brebis et qu'il y en a une qui s'est perdue et qu'il a laissé les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est perdue. Et en parlant de cela, mes amis, Jésus était en train de se référer à lui. L'une des significations de ce texte-là, c'est que Jésus a quitté, mes amis, la gloire, l'adoration, la louange qu'il recevait des anges, mais aussi des autres mondes qui n'ont pas péché, pour venir sauver la seule planète, la seule civilisation de l'univers qui a péché. Donc, il a littéralement quitté les 99 autres. Symboliquement parlant, le chiffre 99, c'est un symbole. Il y en a peut-être plus que cela, je ne sais pas. Mais il a quitté, mes amis. Et la Bible nous le dit dans Hébreux, qu'il a créé les mondes. Nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. Et il l'a donc quitté pour venir nous chercher. Et ainsi, la volonté du Père, c'est qu'aucun de ses petits ne se perde. Et le comportement de Jésus comparé à ses disciples au verset 1er, au verset 2, il n'y a rien à voir. Car ses disciples voulaient être le plus grand dans le royaume, alors que Jésus, lui, il montre un exemple d'humilité, comme on l'a vu dans Jean 6. Il montre un exemple d'humilité de manière à ce que personne ne se perde. Et remarquez jusqu'où va la pensée de Jésus. Lisons du verset 15 jusqu'au verset 17. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de deux ou de trois témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un péager. » Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui se perd, non seulement Jésus nous fait comprendre qu'on ne doit pas être une occasion de chute pour cette personne-là. OK? Mais en plus de ça, lorsqu'on n'est pas une occasion de chute, il nous demande de suivre une démarche pour que cette personne qui se perde ne puisse avoir, on puisse éviter au maximum qu'elle puisse se perdre. À savoir qu'on puisse avoir une démarche envers elle pour éviter qu'elle puisse se perdre. C'est-à-dire d'aller la reprendre. Si elle ne t'écoute pas, tu ramènes une deuxième personne. Et si elle n'écoute toujours pas, on ramène l'Église. Parce que la volonté du Père qui est dans les cieux est qu'aucun de ses petits ne se perdent.
Donc, si nous reprenons cela avec Matthieu 7, verset 21, que nous faut-il comprendre? C'est que ceux qui créent des scandales, ceux qui causent la perte de ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie, ces personnes-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce qu'elles n'imitent, elles ne suivent pas les enseignements qui sont marqués ici, et elles n'imitent pas Jésus, qui lui a quitté, s'est humilié, pour venir nous sauver. Mais cela nous enseigne aussi que ceux qui rentreront dans le royaume des cieux, face à ceux qui se perdent, auront suivi la démarche qui est marquée dans au verset 15, 16 et 17. Et ceux qui entreront dans le royaume des cieux, mes amis, ces personnes-là ont le même désir que Jésus, à savoir de gagner le maximum, mes amis, car il ne faut qu'aucun ne se perde. Alors oui, il y aura des gens qui auront connu l'Évangile et qui se perdront, oui. Mais le désir de Jésus, la volonté du Père, mes amis, volonté du Père que Jésus suit, c'est que aucun de ses petits ne se perde. Ce qui se traduit par « il faut gagner le maximum ». Et tous ceux qui ont rencontré Jésus, faire le maximum pour que ces personnes-là ne se perdent pas. Voilà la volonté du Père, mes amis. La volonté du Père se trouve également dans Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, au verset 30. Jean chapitre 5 et au verset 30. Où Jésus déclara, « Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. » Et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Lorsqu'ici Jésus parle de jugement, il est bien évidemment question de l'exercice du jugement, comme le texte nous le dit au verset 27. Si je lis, et il lui a donné le pouvoir, donc à Jésus, le Père a donné le pouvoir au Fils, d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ok? Et donc, Jésus peut et pourra exercer le jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas jugé de lui-même. Mais il aura jugé selon ce qu'il aura entendu. Et selon ce qu'il aura entendu, se comprend comment? Parce qu'il aura cherché la volonté du Père qu'il a envoyé. Comment cela peut s'appliquer à nous qui sommes concernés par les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 21? Mes amis, il faut savoir que Jésus veut que nous puissions exercer notre discernement, voyez-vous. Et si nous également, nous cherchons à faire la volonté de Dieu, du Père, comme Jésus l'a fait, nous serons conduits à agir avec justice et à parler avec justice. Dans sa sphère, Jésus exercera le jugement. Mais dans notre sphère à nous, nous pouvons faire ce qui est juste. Jésus dans sa sphère et nous dans la nôtre. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose. C'est que le jugement qui sera exercé par Jésus, mes amis, après les 1000 ans, le jugement qui sera exercé, il faut savoir que durant les 1000 ans, les saints participeront à ce jugement. C'est-à-dire qu'ils mèneront une enquête pour être sûr que tous ceux qui vont subir l'exécution du jugement dernier, que toutes ces personnes-là le méritent bien, mes amis. Or, puisque nous aurons à juger, parce que ce sera là une œuvre de jugement, comme les jurés, Puisque nous aurons à juger, mes amis, cela sous-entend que nous aurons à être justes dans notre jugement. Ce qui aussi sous-entend que nous devons être justes dans nos actions et dans nos paroles. Donc voilà comment nous pouvons comparer cela avec l'œuvre de Jésus, l'œuvre du jugement de Jésus, mes amis. Lui qui est juste, nous devons aussi, comme lui, être juste. Lui dans sa sphère, nous dans la nôtre. Mais également, nous aurons aussi à examiner le jugement avant qu'il soit rendu, mes amis. Donc, si nous n'avons pas d'action juste, de parole juste, il nous sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu pour exercer la justice. La volonté du Père se trouve aussi dans Matthieu, chapitre 26, verset 42. Matthieu, chapitre 26, verset 42. Matthieu, chapitre 26, verset 42. Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus était torturé à ce moment-là. Torturé par le conflit qu'il y avait entre le bien et le mal. Nous étions là, mes amis, au croisement. Nous étions là à un moment où Jésus voyait, éprouvait la difficulté qu'il y avait à aller jusqu'au bout de sa mission sur terre. Et mes amis, Jésus mentionne, lorsqu'il exprime, lorsque le texte nous rapporte ce qu'il a exprimé à ce moment-là, Jésus mentionne quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. C'est parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, mes amis, que Jésus est devenu le sauveur du monde. Parce que si Jésus n'avait pas bu cette coupe, mes amis, c'est vous et moi qui aurions dû la boire. Car Jésus, mes amis, a expérimenté la seconde mort, à savoir la séparation définitive avec son Père. C'est ce qu'il a expérimenté. Il a expérimenté ce que tous ceux qui ne l'accepteront pas vont expérimenter. Mais là, ce ne sera pas une expérience pour eux. Ce sera leur destin. Et cela, le destin que les méchants auront, Jésus l'a expérimenté, mes amis. Lui qui a été durant les âges éternels avec son Père. Lui qui, sur terre, a maintenu cette communion avec son Père. Il sentait cette séparation-là. Et cela était trop fort, mes amis. Cela semblait être trop fort pour lui. Mais Jésus s'est soumis à la volonté. Il a dit, si ce n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Si Jésus ne s'était pas soumis à la volonté, je le répète, vous et moi n'aurions pas de sauveur. Donc cela nous ramène encore une fois à ce que nous avons vu dans Jean chapitre 6, versets 38 et 40. L'humilité de Jésus pour obéir. Et comment cela peut s'appliquer à nous? Parce que si moi je ne fais pas la volonté du Père, le monde, d'autres personnes pourront être sauvées, contrairement à Jésus. Parce que si Jésus avait échoué sa mission, nous n'aurions pas de sauveur. Donc comment Matthieu 7, verset 21, par rapport à ce que nous voyons là, quel rapport qu'il peut y avoir avec vous et moi Nous, pauvres pécheurs, dont notre obéissance ne va pas sauver l'humanité. Détrompez-vous, mes amis. Notre obéissance ou notre désobéissance aura une influence sur les autres. Car lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu se sert de nous comme un canal de bénédiction pour toucher d'autres personnes, mes amis. Et lorsque nous obéissons à Dieu, mes amis, nous allons conduire d'autres personnes à l'obéissance. Lorsque nous marchons dans la justice de Dieu, c'est pour conduire d'autres personnes dans la justice, mes amis. Mais lorsque nous désobéissons à Dieu, allons-nous conduire les gens dans l'obéissance? Non, mes amis. Et lorsque nous sommes injustes, allons-nous conduire les gens dans la justice? Non, mes amis. Donc, tout comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans Jean 5, verset 30, Jésus dans sa sphère, nous dans la nôtre. L'obéissance de Jésus a pourvu à ce que nous ayons un sauveur. Mais moi, mon obéissance pourvoira à ce que d'autres personnes puissent considérer ce sauveur. Et si je n'obéis pas, si je cherche pas la volonté de Dieu, si, comme Jésus, je ne me soumets pas à la volonté de Dieu au moment où des choses désagréables peuvent m'arriver, des gens qui doivent connaître le Sauveur ne le connaîtront pas, mes amis. Et regardez bien la situation, hein. Remarquez bien comment Jésus parle. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus exprime là que ce qui va se passer, c'est pas avec joie que je vais le faire. Là, c'est terrible, là. Là, la manière dont je le sens, là, c'est affreux pour moi. C'est affreux. Mais puisque ce n'est pas possible et que je vais faire ta volonté, eh bien, qu'elle soit accomplie. Et combien de fois cela nous arrive à nous? Ou l'obéissance à la volonté de Dieu pour le bien d'autres personnes, cela est compliqué pour nous. Cela nous paraît être horrible. Cela est atroce pour nous. Mais nous savons bien que cela est la volonté de Dieu. Et dans cette circonstance-là, regardons à Jésus, mes amis. Regardons à Jésus, à Gethsémané, et faisons la volonté de Dieu. Et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira, tout comme il a béni Jésus après, par sa résurrection, et toute la gloire qu'il a retrouvée après. De même, nous aussi, Dieu nous bénira, selon ce qu'il aura jugé bon de nous donner comme bénédiction, mes amis. La volonté de Dieu se trouve également dans Matthieu chapitre 12, verset 50. Matthieu chapitre 12, verset 50. Où Jésus dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. » Il y avait Marie et les frères de Jésus, ok, qui étaient venus pour, ils venaient pour, à ce moment-là, pour demander Jésus. Ils voulaient le voir, lui parler. Et si bien qu'au verset 49, on lui a dit, au verset 46. Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Et donc après, on est venu lui dire, voici ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. Et donc, Jésus a donné une réponse. C'est cette réponse-là qui se concentre dans ce que nous avons au verset 50. Et quand on lit cela, on a l'impression que Jésus est en train de dénigrer Marie ou dénigrer les enfants, les fils de Joseph. Non. Non, Jésus ne dénigre pas. Mais Jésus donne une leçon ici. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et avec tous les textes que nous avons vus jusqu'ici, Jésus, on l'a bien vu, s'est humilié pour faire la volonté de Dieu. Et donc, Jésus soulève une vérité ici. Jésus soulève une vérité. Jésus souligne ici l'existence de deux familles. L'existence de la famille de sang, la famille charnelle, la famille sur terre, et l'existence de la famille céleste, la famille du royaume de Dieu, mes amis. Car le royaume de Dieu est une famille en réalité. Le royaume de Dieu est une famille. Et Jésus est en train, ici, de faire comprendre que la famille céleste, la famille du royaume de Dieu, a plus d'importance que la famille de sang, la famille charnelle, mes amis. C'est ce que Jésus était en train de faire comprendre. Et le privilège, voilà le privilège que nous avons lorsque nous faisons la volonté de Dieu, mes amis. C'est que nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes mères de Jésus. C'est le privilège qui est réservé à ceux qui font la volonté de Dieu, mes amis. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes. C'est ce que Jésus a dit. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère. Il n'a pas dit qu'il sera. Il va bientôt être. Non. Il dit, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Mes amis, c'est une bonne nouvelle qu'il y a ici. C'est une bonne nouvelle qu'il y a là. Car nous avons là un privilège, nous qui observons la volonté de Dieu et qui militons pour cela. Mais il y a ici un enseignement. Seuls ceux qui font la volonté du Père sont les enfants de Dieu. Je n'ai pas été compris. Ne vous inquiétez pas, je vais me faire comprendre. Reprenons Matthieu chapitre 7. Jésus a dit au verset 23, Matthieu chapitre 7 verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Le verset 23 du chapitre 7, mes amis, est à mettre en parallèle avec Matthieu 12, verset 50. Nous avons là deux opposés. Oui, nous avons là deux opposés. Car, rappelez-vous, hein, ici, il est question de personnes qui ne font pas la volonté de Dieu. Autrement dit, des personnes qui pratiquent le mal, mes amis. Or, le péché est défini par la transgression de la loi de Dieu qui est révélée, à savoir celle qui est inscrite dans les 10 commandements, mes amis. Du premier commandement au 10e commandement. Si je transgresse l'un de ces commandements, en réalité, je transgresse toute la loi de Dieu, bien évidemment. Mais en faisant cela, mes amis, je fais métier d'iniquité, car je pratique. OK? Et il y a quelque chose à souligner si on n'a toujours pas compris, c'est que, mes amis, les observateurs des commandements de Dieu sont ceux qui font la volonté de Dieu et qui, par conséquent, sont frères et sœurs et mères de Jésus. Quelqu'un qui n'observe pas la loi de Dieu, quelqu'un qui, par exemple, n'observe pas le sabbat, mes amis, nous pouvons la considérer comme un frère en Christ, en vue de la gagner. Mais cette personne-là n'est pas le frère de Jésus. Et quand cette personne-là va accepter le sabbat et va garder toute la loi de Dieu, cette personne-là sera considérée par Jésus lui-même comme étant son frère, ou sa sœur, ou sa mère. Et Jésus est notre modèle, mes amis. Jésus est notre modèle. Donc, l'Église aussi doit avoir la même considération. Il ne s'agit pas ici d'une discrimination négative. Non, mes amis. Mais Jésus a lui-même fait cette discrimination. C'est qu'il y a une raison à cela. C'est que Jésus veut que nous, en tant que peuple, nous puissions avoir un discernement, mes amis. Que nous puissions savoir qui est-ce qui est avec lui et qui est-ce qui n'est pas avec lui, qui combat pour lui et qui ne combat pas pour lui, mes amis. Dans tous les gouvernements qu'il y a sous la terre, mes amis, pour se référer à nouveau à un gouvernement terrestre, dans tous les gouvernements qu'il y a sur terre, si vous ne respectez pas certains critères, mes amis, si vous ne correspondez pas à, si vous ne répondez pas à certaines choses, vous ne pouvez pas être reconnu comme étant un Français, par exemple. Voilà. Parce que pour devenir Français, mes amis, vous devez savoir parler le français, vous devez, je connais pas toutes les règles, mais voilà, vous devez savoir parler le français, ça c'est sûr. Vous devez avoir quelqu'un qui vit ici ou vous-même avoir vécu ici pendant quelque temps. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, plusieurs points auxquels il faut répondre pour être éligible à recevoir la nationalité française. Et si vous ne répondez pas à ces points-là, vous ne pouvez pas être considéré, vous ne pouvez pas recevoir la nationalité française. OK? Et cela, tous les gouvernements de la terre le font, mes amis. Et Dieu ne le ferait pas, mes amis? Dieu ne le ferait pas? Si. Dieu, il le fait aussi. C'est pour cela que dans une assemblée, il y a des frères et sœurs et il y a des amis. Il y a des gens que nous considérons comme des frères, mais qui ne sont pas des frères encore, parce qu'ils n'ont pas encore pris position, mes amis. Tout comme sur le territoire français, il y a des Français et il y a des gens qui sont des étrangers, qui ont un visa ou des gens qui ont une carte de résidence sur le territoire, etc. Mais qui ne sont pas des Français. Mais que nous considérons comme des Français. Il y a même des gens très connus en France, des artistes qui n'ont même pas la nationalité française, qui ont juste ils sont de nationalité africaine ou je sais pas trop quoi. Et on les considère comme des Français. Ils ont travaillé en France, ils ont étudié en France, mais ils ne sont pas Français. Mais on les considère comme des Français. Donc, voilà ce que nous voulions dire, en fait. C'est que même dans ce monde, cette discrimination-là existe. Et dans le royaume de Dieu, cela ne se ferait pas? Si, cela se fait. Cela se fait. Donc, moi, je peux considérer quelqu'un comme étant ma sœur, mon frère, de manière à le gagner, mais aussi parce que il est en train de connaître le Christ et il est en train d'apprendre à faire la volonté du Christ. Mais une fois qu'il sera rentré dans le royaume, une fois qu'il sera passé par la nouvelle naissance, et ce, après avoir compris la volonté de Dieu de manière à pouvoir l'appliquer, là, il est mon frère et ma sœur. C'est important. Et je dis cela parce que beaucoup négligent la nouvelle naissance. Beaucoup négligent le baptême. Et considèrent les gens qui ne sont pas nés de nouveau et appellent ces personnes-là, frères et sœurs, alors qu'ils devraient les considérer comme. Et ce parce que Jésus nous l'indique, mes amis. Voilà le privilège. Je veux revenir à mon point essentiel. Voilà le privilège qui est le nôtre, mes amis. C'est de, en gardant la volonté de Dieu, nous devenons frères et sœurs et mères de Jésus. Il y a aussi un point qu'il nous faut mentionner, et je mentionnerai cela pour conclure ce message. Prenons Apocalypse chapitre 3 et lisons les versets 14 à 17. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 17. Où il est dit, « Écris aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour oindre tes yeux. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi nous prenons ce texte-là alors que nous étudions le royaume de Dieu? Alors que nous sommes en train d'étudier l'entrée dans le royaume de Dieu, et particulièrement en ce sabbat, le fait de faire la volonté de Dieu. Ici, Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable, s'adresse à la dernière église dont il est parlé dans l'Apocalypse. Et nous savons que les églises de l'Apocalypse, les sept églises, représente l'Église de Dieu, du Christ, à travers l'histoire, particulièrement à travers l'histoire de l'ère chrétienne, ce que nous appelons l'ère chrétienne aujourd'hui. Et donc ici, il s'agit de la dernière partie de l'Église. Ok. Et voilà un peu de contexte. Mais ici, Jésus parle à Laodicée. Et le problème de Laodicée, quel est-il? C'est que Laodicée pense qu'elle est, mais en réalité, elle n'est pas. Laodicée pense qu'elle a, mais en réalité, elle n'a pas. Laodicée se trompe, mes amis. Laodicée se trompe. Et de même que Laodicée se trompe, mes amis, en tout cas, oui, de même que Laodicée se trompe, du moins, aussi les gens dont on parle au verset 21 et 22 et 23 de Matthieu chapitre 7, ces personnes-là se trompent aussi, mes amis. Car ils invoquent le Seigneur. Seigneur, Seigneur! Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Et regardez, hein, Le rapprochement est frappant, mes amis. Remarquez Laodicée. Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et qu'est-ce que les gens disent dans Matthieu 7? Ils disent quoi? Ils disent qu'ils prophétisent, qu'ils chassent des démons et qu'ils font des miracles. Mais il y a quelque chose que ces deux groupes de personnes là dont on parle dans Matthieu 7 et dans Apocalypse 3 ont oublié. C'est que Jésus, dans Matthieu 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Et dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 15, il dit, « Je connais tes œuvres. » Ces deux groupes de personnes-là pensent tromper le Seigneur, mais Jésus connaît les œuvres. Donc, on peut dire au Seigneur, « Oui, mais je fais ci. Oui, mais je fais ça. Oui, mais je prophétise. Oui, mais j'ai chassé les démons. Oui, mais moi, je connais tes œuvres. Et je sais que... » Et c'est pour cela que Jésus va conseiller. C'est pour cela que Jésus va conseiller. Et c'est là que le rapport entre ces deux textes-là va être différent. C'est que dans Matthieu chapitre 7, il est question du jugement. Là, on ne peut plus plaider, mes amis. Ce texte-là se réfère, notamment Matthieu chapitre 7, au verset 21 jusqu'au verset 23. Il est question là, cela se situe après le temps de grâce, mes amis. On ne peut plus plaider. C'est le verdict qui tombe. Tandis que dans le message de l'Apocalypse, là, Jésus donne des conseils pour se reprendre, il reprend l'Église pour qu'elle puisse se ressaisir. Et l'un des rapprochements que l'on peut faire, par contre, c'est que dans Apocalypse 3, au verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voici ce que le Seigneur Jésus fait, mes amis, constamment. Le Consolateur, voilà ce qu'il fait. Il frappe à la porte de notre cœur, mes amis, pour rentrer de manière à converser avec nous, de manière à nous conduire. Est-ce que nous l'avons laissé rentrer ce matin? Est-ce que nous l'avons laissé rentrer? Et est-ce qu'il est encore dans nos cœurs? Parce qu'ici, il s'agit de la porte de notre cœur, mes amis, à laquelle Jésus frappe. J'espère que oui, mes amis. J'espère que oui. Et j'espère que pour tout un chacun ici, cela sera le cas jusqu'à ce que nous quittions cette terre ou jusqu'à ce que Jésus revienne sous les nuées des cieux nous chercher. Et il faut qu'il en soit ainsi. Il faut, mes amis, que Jésus soit le roi dans notre cœur. Et si nous le laissons, et si nous le mettons dehors, parce que nous sommes tombés, sachez qu'il va revenir frapper, mes amis, à la porte de notre cœur. Et à ce moment-là, lorsqu'il va frapper, mes amis, ouvrez-lui rapidement, mes amis, et dites-lui, je t'ouvre, et s'il te plaît, reste-y. Et si je veux te mettre dehors, insiste avec moi pour rester. Car, au verset 23, mes amis, de Matthieu chapitre 7, ceux qui l'ont appelé, ceux qui l'ont invoqué, et ceux qui auront prophétisé, ceux qui auront chassé les démons, ceux qui auront fait des miracles. Ces personnes-là, au verset 23, Jésus dit que Jésus leur dira ouvertement, mes amis, ouvertement, sans dissimulation, sans il va dire les choses clairement, comme c'est marqué là, mes amis. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Voilà ce que Jésus dira aux membres de la Odyssée qui n'auront pas ouvert la porte de leur cœur à Jésus. Jésus aura frappé, mais ces personnes-là n'auront pas ouvert la porte de leur cœur. Si bien que si elles avaient ouvert la porte de leur cœur, elles auraient pu connaître Jésus, discuter avec lui, converser avec lui et suivre son exemple. Mais certains chez la Odyssée ne suivront pas l'exemple. D'autres le feront, mais d'autres ne le feront pas. Et ceux qui ne le feront pas, leurs oreilles auront à entendre ces paroles. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas ouvert la porte de votre cœur. Vous ne m'avez pas ouvert la porte de votre cœur. Donc je ne vous ai jamais connu. Et puisque je n'ai pas pu parler avec vous, je n'ai pas pu vous instruire dans la justice. Et c'est pour cela que vous avez continué à pratiquer l'iniquité. Ainsi, vous avez fait métier d'iniquité. Donc, retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Plaise à Dieu, mes amis, que nous n'entendions jamais ces paroles-là de la bouche de Jésus. Telle est ma prière pour moi, et telle est ma prière pour vous, mes amis. Mais plutôt que Jésus puisse nous dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et pourquoi nous dira-t-il cela, mes amis? C'est parce que nous aurons fait la volonté de Dieu, mes amis. Comme nous l'avons vu depuis le début de ce message, nous nous serons humiliés pour obéir. Nous aurons contemplé le Fils de Dieu dans son obéissance parfaite, ce qui nous donnera accès à la vie éternelle dont nous prendrons possession lors de la résurrection. Nous n'aurons pas créé de scandale, mes amis. Nous aurons insisté auprès de ceux qui se perdent et nous aurons cherché à gagner le maximum. Nous aurons agi avec justice et parlé avec justice. Et nous aurons obéi à Dieu de manière à être un canal de bénédiction pour les autres, tout comme Jésus a obéi à son Père et que nous avons un Sauveur. Et en faisant la volonté de Dieu, mes amis, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Nous avons notre place dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi ? Parce que nous étions dans le royaume de Dieu sur terre. C'est parce que nous sommes membres du royaume de Dieu sur terre que nous serons également membres de ce royaume lorsqu'il se poursuivra dans les cieux, mes amis. Et donc, ceux qui rentreront dans le royaume des cieux, mes amis, se rentreront dans la famille de Dieu. Ils seront membres de la famille de Dieu. Et pour être membre de la famille de Dieu, mes amis, il faut être membre de sa famille sur terre. Il faut être un frère, une sœur et une mère de Jésus sur terre, de manière à pouvoir l'être aux cieux. Voilà ce qu'est le fait de faire la volonté de Dieu, mes amis. Que le Seigneur puisse nous bénir en ce matin. Et que nous puissions faire sa volonté, que nous puissions la connaître et la pratiquer et ne pas nous borner à écouter. Mais comme Jésus, que nous puissions nous humilier et obéir de manière à pouvoir bénir les autres. Amen. Je vous inviterai pour terminer à vous prosterner avec moi pour demander au Seigneur de graver ces choses-là dans nos cœurs et que nous puissions les vivre dès à présent. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces paroles. Merci pour les Saintes Écritures que tu nous donnes. Saintes Écritures à travers lesquelles nous comprenons ta volonté. Saintes Écritures à travers lesquelles tu nous montres, Seigneur, le chemin pour rentrer dans ton royaume céleste. Seigneur, que nous puissions, comme Jésus, nous humilier et t'obéir, et que nous puissions être trouvés fidèles devant ta face, que nous puissions contempler l'agneau de Dieu qui n'a pas cherché à faire sa volonté, mais qui a toujours cherché à faire ta volonté. Et que comme lui, il est dans sa sphère, il exerce des choses dans sa sphère, en sa qualité de fils de Dieu, de fils unique engendré, eh bien, que nous, dans notre sphère de fils et filles adoptés par toi, que nous puissions aussi imiter Jésus dans son obéissance à ta volonté. Que nous puissions accepter les reproches que tu nous fais, Seigneur, et être de ceux de la Odyssée qui seront assis sur... qui partageront le trône avec Jésus. Celles et ceux qui auront accepté les reproches, celles et ceux qui auront conformé leurs œuvres à celles du Christ et qui ne se seront pas bornés à des paroles, mais qui auront manifesté leur sincérité dans leurs actions. Merci de nous conduire, Seigneur, et que tu puisses diriger toutes choses dans nos vies. Ce sont là les grâces que nous te demandons, honorées par les mérites de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.